VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, nouvelle attaque dans le centre du Mali. Selon un bilan provisoire, il y a au moins 23 morts et plus de 300 disparus à Wenkoro. Résultat de la présidentielle en Mauritanie, le candidat du pouvoir Mohamed Cheikh Ould Ghazouani a été proclamé élu au premier tour. Accident ferroviaire au Congo-Brazzaville, environ 17 personnes ont été tuées après une collision à la gare de Ngodji. Enfin, l'Iran a dépassé aujourd'hui la limite imposée par l'accord de Vienne pour l'enrichissement de son uranium. Également dans un peu plus de 10 minutes, le journal de la Cannes, mais d'abord, le journal. 23 morts et 300 personnes disparues, c'est le bilan provisoire des attaques contre trois villages dans la commune de Wenkoro, située dans le cercle de Bankas, dans la région de Mopti. Ces attaques se sont déroulées dans la journée d'hier, mais ce n'est que ce matin que les militaires maliens sont arrivés dans la commune de Wenkoro. Nous faisons le point avec Kassim Traoré.
Sarankouidi et Sarankoro sont des villages qui ont été attaqués par des hommes lourdement armés en tenue d'osso. C'est ce matin que les patrouilles de l'armée ont abordé le village de Sarank, un village mixte Peul et Dogon. 14 cases ont été brûlées, des greniers mis à feu, des animaux incendiés. Les militaires maliens ont retrouvé 4 corps, 3 hommes et une femme dans le village de Sarank. 2 étaient en dehors du village. Haruna Sankaré, maire de la commune de Wankoro.
Ils ont incendié toutes les maisons. Il faut que les plus hautes autorités de ce pays sachent que la sécurité des citoyens est donc obligatoire pour eux. Les villageois, dès qu'ils nous alertent des attaques, nous informent à l'hierarchie, mais malheureusement les réactions sont lentes. Les Dogons sont pris en otage par les chasseurs de Dana Amasagou. Les Peuls sont pris en otage par les terroristes de Amadou Koufa. Donc il faut que l'État réagisse avant que ça ne soit trop tard.
Après cet attentat, plus de 300 personnes sont portées disparues selon un bilan provisoire. L'armée malienne continue sa patrouille dans la zone afin de sécuriser les personnes et leurs biens et de faciliter le retour au calme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
D'ailleurs, nous reviendrons sur cette attaque en partie magazine avec le maire de Wenkoro. En Mauritanie, le Conseil constitutionnel vient de confirmer la victoire de l'ex-patron de l'armée, Mohamed Ould Ghazouani, au premier tour de la présidentielle du 22 juin. Le Conseil a également rejeté les recours de l'opposition. À Nouakchott, notre correspondant Mohamed Diop.
Le Conseil constitutionnel a donc confirmé les résultats donnés par la CENI. L'ex-patron de l'armée, Mohamed Ould Ghazouani, est donc le nouveau président de la Mauritanie. Il a remporté les élections au premier tour à la majorité absolue. Bien sûr, le Conseil a statué sur les recours de l'opposition, mais il les a rejetés pour insuffisance de preuves. Ainsi, selon les résultats du Conseil constitutionnel, Mohamed Ould Ghazouani arrive en tête avec 52,00% des voix. Il est suivi de Biram Da Abeid avec 18,59% des voix. Arrive en troisième position Sidi Mohamed Ould Boubacar, l'ancien Premier ministre, avec 17,8% des voix. En quatrième position, on retrouve Kan Hamidou Baba avec 8,70% des voix. Mohamed Ould Mouloud arrive, lui, en cinquième position avec 2,44% des voix. Et en dernière position, il y a Mohamed Mortadi El-Wavi qui a obtenu 0,40% des voix. Ainsi donc, Mohamed Ould Ghazouani est le nouveau président de la Mauritanie. Il devra prêter serment le 2 août prochain. Mohamed Diop, Nouakchott, VOA, Afrique.
Incendie spectaculaire à Bukavu, en République démocratique du Congo. Des dizaines de maisons ont été détruites et une petite fille a été tuée. Selon le maire de Kadutu, un quartier de cette ville dans l'est de la RDC, le feu a laissé 400 familles sans abri. En août dernier, un incendie dans un autre quartier de Bukavu avait détruit près de 200 habitations. Au Congo-Brazzaville, environ 17 personnes ont été tuées lors d'une collision entre deux trains à la gare de Ngodji, dans la région de Pointe-Noire. L'accident s'est produit dans la nuit de dimanche. Plus de détails avec notre correspondant Arsène Séverin.
L'accident a eu lieu vers 23h en aire locale à Ngondji, à quelques encablures de Pointe-Noire. Selon les sources proches de la compagnie de chemin de fer, 17 personnes ont été tuées dans cet accident de train. Des témoins à Pointe-Noire, au carrefour de Mongonkamba, ont affirmé ce matin à VOA Afrique avoir vu des corbillards multiplier les tours à partir de 3h du matin entre le lieu de la collision et les centres-villes où se trouve l'hôpital général et la morgue. Des dizaines d'autres personnes ont également été blessées. Pour le moment, la compagnie ferroviaire, le CFCO, qui a confirmé l'incident de Ngondji, ne communique pas encore sur le bilan et surtout sur les causes de l'accident. Selon les premiers éléments, il s'agit en fait d'une collision entre un train minéralier venant de Mayoko dans le Niari et un train marchandise en partance de Pointe-Noire. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa décision de rebaptiser l'aéroport, le stade et une avenue de Bujumbura, la capitale. Donc l'avenue du 3 novembre dans les quartiers de Chibitoke et Mutakura a été rebaptisée boulevard du général Adolphe Chimirimana. Le général avait été assassiné le 2 août 2015. Au Soudan, trois nouveaux corps ont été découverts aujourd'hui près de Khartoum. Ces nouvelles victimes s'ajoutent aux 7 personnes tuées hier et aux 180 personnes blessées lors des manifestations pour un transfert du pouvoir aux civils. La contestation accuse les généraux au pouvoir d'avoir réprimé ces manifestations. En Tunisie, des internautes et des hommes politiques ont réclamé davantage de transparence sur l'état de santé du président Béji Caïd Essebsi. Âgé de 92 ans, le chef d'État est hospitalisé depuis jeudi à la suite d'un grave malaise.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran a annoncé avoir franchi la limite imposée à ses réserves d'uranium faiblement enrichies par l'accord de 2015 sur son programme nucléaire. Téhéran prend le risque d'être déclaré pour la première fois en faute sur ses engagements internationaux. Nous faisons le point avec Bagassi Koura.
L'Iran a dépassé la limite des 300 kg d'uranium faiblement enrichi, a annoncé Mohamed Zafad Zarif, ministre des Affaires étrangères. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé ce dépassement de la limite imposée, tout comme l'AIEA. L'Iran n'a pas précisé à quel niveau se situent maintenant ses réserves d'uranium enrichi. Nous considérons que c'est notre droit d'agir dans le cadre de ce que permet l'accord conclu à Vienne en 2015, a déclaré Zarif. L'Iran avait initialement prédit que la limite serait franchie le 27 juin. Le ministre iranien a prévenu de manière implicite que Téhéran pourrait ne pas en rester là. Cette annonce survient sur fond de tensions exacerbées avec les États-Unis. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a jugé cette annonce profondément inquiétante. Le dépassement de la limite suscite le regret, mais il ne faut pas dramatiser, a réagi Moscou, qui a appelé les Européens à ne pas envenimer la situation et Téhéran, je cite, à se conduire de manière responsable.
Autre réaction, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé les pays européens à immédiatement sanctionner l'Iran. En Afghanistan, au moins 6 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées, dont une cinquantaine d'écoliers par l'explosion d'une voiture piégée. L'attaque a été revendiquée par les talibans. Nouvelle manifestation à Hong Kong à l'occasion de l'anniversaire de la rétrocession de l'île à la Chine le 1er juillet 1997, avec des scènes de chaos et des violences sans précédent. Hong Kong est le théâtre depuis des semaines d'un mouvement de contestation historique contre un projet de loi controversé destiné à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et maintenant le journal de la CAN, présenté ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le journal de la CAN. C'est un dernier match de la phase de poule aux allures de finale dans le groupe D. La Côte d'Ivoire affronte présentement la Namibie pour une place en huitième de finale. Les éléphants mènent 3-1 à quelques 5 minutes de la fin. Dans l'autre rencontre du groupe B, le Maroc déjà qualifié fait face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, qui pourra aussi se propulser en huitième de finale en 4 victoires, mais le score est de 0-0 entre Marocains et Sud-Africains. Dans la poule C aussi, il y a une finale entre le Sénégal et le Kenya qui comptabilise chacun 3 points et qui s'affrontent ce soir. Un match nul suffira au Sénégal pour poursuivre son parcours, mais la défaite face à l'Algérie reste difficile à digérer chez les fans des Lions de la Teranga et le coach n'a pas échappé aux critiques, même s'il dit être serein. Aliou Cissé.
Moi, je ne suis pas du genre à tout remettre en cause en 4 jours. Je suis quelqu'un de très équilibré. Effectivement, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire une révolution en l'espace de 4 jours. Pardon. On a joué contre la Tanzanie, ça avait très très bien fonctionné. C'était pratiquement la même équipe qui était là. Contre l'Algérie, effectivement, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause.
En face, les Kenyans y croient.
On a le destin en main. Voilà, c'est à nous d'aller puiser des forces que l'on ne soupçonnait pas exister chez nous et pour pouvoir s'en sortir exister. On l'a fait en phase de qualification contre le Ghana. Est-ce qu'on est capable de le reproduire face au Sénégal? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais j'espère que, en tout cas, les garçons prendront conscience qu'il faut qu'on donne tout. Parce qu'on ne sait pas quand on reviendra dans ce type de compétition quand on est le Kenya.
Sébastien Minier, sélectionneur du Kenya, qui a aussi ajouté que le Sénégal n'est pas fort mentalement, de quoi irriter son homologue sénégalais qui lui a répondu à l'UCC.
Souvent, mes homologues ont tendance à parler de nous, qui s'occupent de leur équipe. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la mentalité du Sénégal? Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre peuple? Comment peut-il dire qu'on n'a pas le mental? On est numéro 1 africain depuis 3 ans. On est allé à la Coupe du Monde en 2018. C'est notre première défaite depuis 4 ans sur le scène continental. Je pense qu'aujourd'hui, une équipe qui n'a pas le mental ne fait pas ce parcours-là.
Sénégal-Kenya, c'est tout à l'heure à 19h temps universel. À la même heure, l'Algérie déjà qualifiée fera face à la Tanzanie. Madagascar poursuit son compte de fées, obligé de passer par un tour préliminaire avant même les qualifications. Voilà les barrières en huitième de finale de la CAN à leur première participation avec en prime la première place du groupe B après leur victoire 2-0 devant les Super Eagles. Le sélectionneur de Madagascar s'en félicite. On écoute Nicolas Dupuis.
On a été sérieux. D'abord, je tiens à féliciter mes joueurs. On a été organisés. On a su faire le dos rond quand on était un petit peu en difficulté. Et on a montré une belle organisation défensive. On a bénéficié de l'erreur de leur part pour marquer le premier but. Mais on était venus pour faire match nul. Et ça nous a aidés. Alors, en football, c'est ce que j'ai dit. Tout est possible tout le temps. C'est le seul sport collectif où il peut y avoir des surprises. Là, il y en a eu une. Mais c'est pas une surprise qui est venue de nulle part. C'est quelque chose qu'on a construit. Voilà. Donc, on a été, je pense, un peu meilleur que le Nigeria aujourd'hui.
Le Nigeria avait déjà validé son ticket pour le prochain tour dès la deuxième journée de poule. Toujours dans ce groupe B, la Guinée a fini à la troisième place avec 4 points grâce à sa victoire 2-0 sur le Burundi, éliminé après sa troisième défaite en autant de sorties. Dans la poule A, l'Égypte victorieuse de l'Ouganda 2-0 a réussi le carton plein avec 3 victoires en 3 matchs. Dans l'autre match du groupe B, les Léopards de la RDC se sont réveillés et ont atomisé le Zimbabwe 4-0, duquel nous retrouvons Jonathan Massiala de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La RDC a maximisé ses chances de pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Obligé de battre largement le Warriors du Zimbabwe lors de la dernière journée du groupe A pour espérer terminer parmi les 4 meilleurs troisièmes, les Léopards ont rempli leur mission en pulvérisant leur adversaire sur le score de 4-0 grâce au but de Jonathan Bolingui, Brit Asombalonga et un doublé de Cédric Bakambu, élu homme du match.
Aujourd'hui, quoi qu'il se passe, on peut avoir la tête haute, mes coéquipiers et moi, on a deux le maximum. Tiens à remercier vraiment mes coéquipiers sans qui, voilà, j'aurais pas eu le français ce soir.
De son côté, Sunday Chizangba, entraîneur du Zimbabwe, explique que cette déroute du fait de la mauvaise prestation du gardien Edmore Sibanda, qui a remplacé en dernière minute George Chigova, blessé à l'échauffement. La RDC termine 3e du groupe A avec 3 points et 0 comme goal average et devra attendre le résultat final des 4 derniers groupes pour connaître son sort. Depuis l'hier, Jonathan Massiala de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Dans le centre du Mali, une dizaine de civils peuls ont été tués hier à Wenkoro, une localité proche du Burkina Faso. Le groupe d'Annan Ambagsagnou, affilié aux chasseurs traditionnels Dogon, a annoncé il y a quelques jours son désengagement du cessez-le-feu observé depuis plus d'un mois. Sur le dernier bilan de cette dernière attaque, Idriss Fall a joint Haruna Sankaré, le maire de Wenkoro.
Le premier bilan que les populations nous ont donné s'élève à 23 morts, mais l'armée s'est rendue là-bas. On nous parle encore de 12 morts, donc nous sommes en train de voir la véracité de la situation. Hier, aux environs de 14h, les chasseurs sont arrivés à moto. Ils ont encerclé le village de Saran et ils ont procédé à des tirs. Nous avons fait appel à l'armée. Malheureusement, l'armée est arrivée sur le terrain aux environs de 17h. Ils ont trouvé que des dégâts ont été déjà faits. Après, l'armée s'est retournée à Wenkoro pour attendre les renforts. Ce matin, ils sont repartis sur les lieux. Donc, les chasseurs ont attaqué plusieurs villages à la fois.
Combien de villages? On nous parle de 300 disparus.
Le village de Sankoro, le village de Bidi. Effectivement, il y a plusieurs déplacés. Tous les villages environnants sont déplacés vers le chef-lieu de la commune, Wenkoro, et d'autres sont partis vers le Burkina.
C'était des villages peuls, c'était des villages Dogon.
Les villages attaqués sont des villages peuls. Le village de Saran cohabite avec des Dogons. Mais c'est le quartier Peul qui a été attaqué. Les populations Dogon et Peul sont en train de déserter les villages parce que, écoute, cette crise n'est pas une crise de Dogon Peul, mais ce sont des milices Dogon et Peul qui ont pris la population en otage parce que les deux communautés vivent la même terreur.
Il y a quelques jours, c'était 35 Dogons qui ont été massacrés dans leur hameau. Aujourd'hui, ce sont des Peul. Est-ce que vous ne craignez pas quelques débordements ethniques?
Effectivement, nous craignons beaucoup parce que beaucoup de Dogons sont en train de déserter en ce moment parce que hier, c'était des villages Peul qui ont été attaqués. Demain, on ne sait pas, ça serait le tour de quel village. Donc, toutes les communautés ont pris peur. C'est la raison pour laquelle tous les villages sont en train de déserter.
De l'autre côté, vers le Burkina, c'est le même phénomène aussi. Il y a les Kogleweogo qui s'attaquent à d'autres populations. Est-ce que ce n'est pas l'absence de l'État dans ces régions qui fait que les milices de plus en plus occupent ce vide?
Quand des populations ne sont pas protégées par les États, ça se passe toujours comme ça. C'est des individus qui prennent des armes, soi-disant, pour protéger leur village ou leur communauté. Et après, ça devient quelque chose de terrible comme ça. Ceux qui ont pris des armes pour dire qu'ils vont protéger leur communauté ou leur village, ce sont eux qui sont en train de commettre tous ces crimes. Donc, non seulement c'est l'absence de l'État, mais aussi l'abandon total de l'État.
Haruna Sankaré, le maire de Wenkoro, dans le centre du Mali. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunis samedi à Abuja, ont formellement adopté le nom d'ECO pour le projet de monnaie unique en Afrique de l'Ouest et sa création est prévue pour 2020. L'ECO devra remplacer le CFA et sera aussi utilisé pour le Nigeria, par le Nigeria, le Ghana et la Guinée, ayant actuellement leur monnaie nationale. Est-ce possible de la créer dès 2020? Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Dakar l'économiste et analyste politique Gilles Olakunle Yabi.
Il faut voir d'abord dans la création d'une monnaie unique dans l'espace ouest africain une volonté d'uniformisation, ou en tout cas d'harmonisation des politiques économiques, et notamment de la politique monétaire. Mais je crois que c'est un acte politique, effectivement, avant d'être un acte économique. Est-ce qu'il est suicidaire pour les économies? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a, bien sûr, des problèmes de convergence économique et qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Je ne pense pas que l'échéance de 2020 soit raisonnable. Mais par contre, je pense que politiquement, c'est important de signifier une volonté d'aller vers cette intégration monétaire qui doit être dépendante d'une intégration économique et d'une intégration politique forte.
Une monnaie, c'est un outil politique. On a vu le retrait de la Guinée du franc CFA, les conséquences sur l'économie de la Guinée. Est-ce qu'ils auront la capacité politique pour gérer cette nouvelle monnaie?
On le verra à l'œuvre. Il est certain que ce n'est pas gagné et que ce n'est pas évident de gérer une monnaie commune dans un espace aussi diversifié en termes de solidité et de spécialisation des économies nationales et également avec beaucoup de déséquilibre dans un pays comme le Nigeria qui représente plus de la moitié du PIB de la région. Donc c'est sûr qu'il y a des défis importants. La vraie question, c'est bien sûr toujours la question des ressources humaines, de la capacité au niveau des économistes de mettre en place tous les outils qu'il faut pour gérer une monnaie commune et en même temps au niveau politique d'avoir la structuration qui permet de garantir la solidarité entre les pays de la région et qui permet d'avoir un mécanisme de décision politique qui soit également tenable.
Vous pensez que la population de la zone CDAO est prête pour entrer dans cette nouvelle phase?
Je crois que ce qui est important, c'est de faire en sorte que justement les populations se sentent concernées par cet agenda. Il faut assumer le fait que l'agenda d'une monnaie commune est fait partie de l'agenda d'une intégration politique, économique et d'une CDAO des peuples, puisque c'est aussi cela l'agenda. Et donc je crois qu'il faut lier absolument l'élément monétaire à l'élément de progrès économique et social et montrer en quoi une monnaie unique les échanges au sein de la région et en quoi est-ce qu'une augmentation des échanges commerciaux peut stimuler la production, stimuler l'emploi et finalement stimuler l'amélioration du bien-être collectif. Je crois que c'est ça qui est l'enjeu. Ce n'est pas simplement un enjeu à nouveau de monnaie unique pour affirmer une souveraineté.
C'était l'économiste et analyste politique Gilles Olakunle Yabi. Il était joint à Dakar. Au Burkina Faso, la législation sur le tabac a été renforcée avec l'entrée en vigueur ce 1er juillet d'une nouvelle réglementation. Désormais, les paquets de cigarettes devront par exemple afficher des images de personnes atteintes de maladies dues au tabagisme. C'est l'aboutissement d'une campagne anti-tabac menée depuis des années par des associations. Les précisions à Ouagadougou de notre correspondant Issa Napon.
Votée depuis 2016, l'application de cette nouvelle loi qui réglemente les conditions de présentation des paquets de cigarettes avec des images très graphiques se faisait attendre. La lutte de longue haleine est portée par l'ONG Akonta, Afrique contre le tabac, fer de lance de la lutte contre le tabagisme au Burkina Faso. Salif Nikema en est le coordonnateur.
Cette mesure-là devait entrer en vigueur en 2016 parce qu'il y a un décret qui a été pris donc pour définir un peu les modalités sur le conditionnement étiquetage des produits du tabac. Mais l'industrie du tabac s'était opposée, elle ne voulait pas vraiment appliquer cette mesure-là. Mais avec le plaidoyer que nous avons mené, nos autorités ont pris l'engagement vraiment de faire appliquer cette loi-là sur la position des avertissements sanitaires.
Ce n'était pas un combat gagné d'avance, reconnaît Abdul Wahab Nombré, secrétaire exécutif du réseau des journalistes anti-tabac.
Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Ça donne également l'impression que le gouvernement a compris l'accent des organisations de la société civile qui ont plaidé pour que les mesures qui ont été votées depuis 2010 dans la loi anti-tabac soient appliquées par palier.
Sur les 7 millions de décès dans le monde pour tabagisme, 4800 sont enregistrés au Burkina Faso avec une prévalence de 19,8% selon une étude STEPS réalisée par le ministère burkinabé en charge de la santé en 2013. Les conséquences assez dramatiques dont nous parle le docteur Aboubakar Bambara, cancérologue, chef de service oncologie clinique dans un district sanitaire de la capitale.
Sénégal.
Il faut dire que le tabac contient plusieurs molécules et je vais beaucoup plus m'attarder sur les conséquences dans le domaine du cancer. Le tabagisme est vraiment un facteur de risque important, très reconnu dans la survenance d'un cancer. Je cite en première position le cancer de poumon. Il y a aussi comme cancer ou les cancers donc de la cavité buccale, tout ce qui passe dans la bouche. Le cancer du larynx, tout ça est dans la gorge. Le cancer de l'œsophage supérieur, sans oublier le cancer de la vessie. Il faut dire que c'est tout un groupe de 16 cancers dont on a retrouvé donc l'incrimination comme facteur de risque du tabagisme. Nous pensons que les étiquettes vont pouvoir jouer un rôle, mais il faut qu'on intensifie donc la prévention pour la lutte contre le tabagisme, surtout en milieu scolaire et en milieu jeune. Plus on commence à fumer très tôt, plus on est exposé.
Pour toutes ces raisons sanitaires, les acteurs dans la lutte contre le tabagisme veulent rester vigilants dès ce 1er juillet. Salif Nikema, coordonnateur de Afrique contre le tabac.
À la date du 1er juillet, les paquets qui ne sont pas conformes devaient être saisis et détruits, ce qui est recommandé.
La brigade mobile du ministère en charge du commerce se tient prête à effectuer le travail de vérification de terrain sur l'application d'une mesure considérée comme une grande victoire d'étape dans la lutte contre le tabagisme au Burkina Faso. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM. Le président Donald Trump a annoncé la reprise des discussions sur le nucléaire nord-coréen après sa rencontre historique hier avec Kim Jong-un. Donald Trump est le premier président américain à fouler le sol nord-coréen. Si certains ont salué une avancée historique, d'autres parlent de coups médiatiques. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Paris Françoise Nicolas, directrice du Centre Asie à l'Institut français des relations internationales.
Il a parfaitement réussi son coup puisque la rencontre a eu lieu. A priori, c'était une rencontre impromptue, ce que j'ai un peu peine à croire d'ailleurs, parce que ça a l'air de s'être organisé de manière aussi tellement facile que ça paraît très 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 surprenant. Mais il a réussi son coup, tout s'est passé comme il le voulait. Il a même eu le droit de fouler le territoire nord-coréen. Donc ça s'est passé de manière assez idéale pour lui, oui.
Mais ici aux États-Unis, ces critiques parlent d'une diplomatie par tweet. Mais est-ce que ce n'est pas un peu ce qui fait son succès, la prise des risques, si on peut le dire ainsi?
Oui, effectivement, c'est une diplomatie par tweet, ça c'est tout à fait juste. Mais cela étant, pour l'heure, ça a tout à fait bien fonctionné. Alors, il ne faut pas non plus s'enthousiasmer trop rapidement, et je comprends parfaitement les critiques, parce que les critiques portent essentiellement sur le « après ». Qu'est-ce qui va se passer après cette rencontre? Oui, d'ailleurs, d'accord, Donald Trump a pu aller en Corée du Nord, il a pu serrer la main de Kim Jong-un dans son propre pays, entendu, mais et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que pour autant le dossier sur la dénucléarisation a avancé? Pour l'instant, pas du tout. Donc je comprends très bien qu'on puisse critiquer cette diplomatie, qui était une diplomatie de l'apparence en quelque sorte, mais derrière laquelle on ne voit pas grand résultat concret pour l'instant.
Mais justement, le président Trump annonce une reprise des discussions sur le nucléaire.
A priori, ce qui a réussi, c'est que le fil est à nouveau noué. Donc oui, la discussion va peut-être reprendre. Mais là encore, il ne faut pas non plus s'emballer trop vite. Il y a eu une réunion à Hanoï et on a vu que ça n'a débouché sur absolument rien, et tellement sur rien que d'ailleurs la rencontre a à peine démarré. Elle a été en quelque sorte mornée. Donc il ne faut pas s'exalter ou s'emballer de trop, mais le fait est que on peut espérer qu'on a une reprise du dialogue entre les deux parties. Donc je pense que tout le monde a raison. Ceux qui s'enthousiasment en disant voilà, regardez, il y a une réussite. Oui, il y a une réussite et puis il y a reprise de dialogue. Et puis ceux qui sont esprit plus chagrin et qui disent oui, mais tout ça c'est de l'apparence, c'est du bluff et puis il n'y a rien derrière. Pour l'instant, on n'a pas encore vu grand-chose comme résultat concret. Mais ne soyons pas trop pessimistes. Le dialogue est renoué et donc peut-être qu'il débouchera sur quelque chose enfin.
Ce matin, une partie de la presse américaine a révélé en tout cas que l'administration Trump est en train d'explorer la possibilité de laisser la Corée du Nord devenir un pays nucléaire. Est-ce que ce serait pour vous une concession acceptable?
Déjà, Kim Jong-un est le grand gagnant de toute cette affaire. Kim Jong-un a pu serrer la main du président américain. Il parle d'égal à égal avec le président des États-Unis. C'est ce que son grand-père n'a pas réussi à faire, ce que son propre père a essayé de faire et n'a pas réussi non plus à faire. Et si en plus il parvient à faire reconnaître son pays comme une puissance nucléaire, alors là, il a vraiment gagné sur tout le tableau.
C'était la directrice du Centre Asie à l'Institut français des relations internationales, Françoise Nicolas. Elle était jointe à Paris. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Lionel Gaïmard. À la console, Adrius Regus. Au micro, Clermont Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous, tout de suite un nouveau point sur l'actualité, présenté par Henri Francisque. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.